Chapitre 13. Carter Yergen n'est pas homme à regretter le choix de vie qu'il a fait. Mais à présent qu'il se retrouve bloqué dans ce coin paumé, il en arrive à se demander s'il n'aurait pas été mieux avisé de réfléchir 3 minutes avant d'accepter l'invitation de sa tante Deirdreux à se joindre à la révolution arcadienne. Deirdreux est sa tante préférée. C'est une femme brillante qui se trouve à la tête d'une fortune de 700 millions de dollars. Comme elle n'a pas d'enfant, elle ne l'a sûrement pas oublié dans son testament. En dépit de cet avantage, peut-être aurait-il mieux fait de refuser sa proposition et de l'assassiner en veillant à ne pas attirer les soupçons sur lui. De l'autre côté du pare-brise, le petit pick-up retourné sur le toit sur le bas-côté, les 4 pneus éclatés, est en flammes. Le squelette calciné qui reste coincé sur le siège du conducteur ressemble à un marshmallow géant fondu sur un feu de camp. Radley Dubose est au téléphone avec les équipes du QG. Il demande à son interlocuteur s'il a des nouvelles de l'hélicoptère Airbus H-120 qu'il a envoyé en mission à la poursuite de Minette Butterworth. Il cherche également à savoir ce qu'il était devenu des personnes modifiées la veille. Si le pilote et le copilote de l'Airbus ont remarqué quelque chose d'anormal en survolant la route. La réponse est apparemment positive car Dubose se contente d'écouter les explications de son correspondant pendant 4 minutes en laissant échapper des interjections telles que « Bon, vraiment ? Merde alors ? » ou encore « Tout ça n'est pas terrible, vieux. » Il vient à peine de raccrocher que Yergen se tourne vers lui. « Si on arrive tous les deux à tuer ma tante Deirdreux en faisant passer sa mort pour un accident, je suis prêt à partager avec toi un héritage de 100 millions de dollars au bas mot. Peut-être beaucoup plus. » Dubose lui lance un regard désapprobateur, et nullement parce que son collègue lui suggère de commettre un meurtre. « Évitons pour l'heure de nous laisser distraire par des problèmes aussi terre-à-terre que des questions d'argent, si tu veux bien. L'avenir de la révolution est en jeu. » Te souviens-tu que l'un des modifiés d'hier soir était un certain Arlen Austin? J'ai assez de soucis pour ne pas m'amuser à mémoriser les identités de 50 losers. Arlen Austin, poursuit Dubose sans se démonter, est le propriétaire de l'entreprise locale de collecte de déchets, Valleyside Waste Management. Il lui arrive de faire lui-même des tournées lorsqu'un de ses chauffeurs est malade, de sorte que c'était apparemment une excellente recrue pour localiser le chiard de Jane Hawke. Personne ne se méfie d'un éboueur qui s'arrête devant chaque maison, ce qui laissait tout le loisir à Austin de jeter un coup d'œil en passant et de s'assurer que rien dans les poubelles n'indiquait la présence d'un gosse au sein d'une famille sans enfants. « Une idée géniale !» le raille Yergen. « Pas tant que ça, malheureusement. » Austin a pris le volant d'un engin capable de soulever sans effort les bennes à ordures les plus lourdes. Un vrai tank. Tu es en train de me dire qu'il a franchi la porte interdite, comme Minette? Tout indique qu'il n'est pas dans son état normal, sans arriver jusqu'aux mêmes extrémités qu'elle. Aucun témoin ne l'a vu nu.
J'avoue que c'est un soulagement.
Dubose redémarre. L'équipage de l'Airbus a bien remarqué que Austin saccageait tout sur son passage, mais l'hélicoptère n'a pas pu continuer à le surveiller car on a signalé au pilote d'autres incidents plus graves encore.
Des incidents plus graves que toutes ces voitures en miettes? Combien?
6. Mais t'inquiète, il nous suffit de retrouver Austin et de le neutraliser.
Alors qu'il conduit un camion poubelle gros comme un tank? Ce ne sera pas facile.
Si tu te souviens, j'ai fait la connaissance de ta tante Deirdreux. Eh bien, je peux déjà te dire que tuer Austin dans son camion Ben sera infiniment plus facile qu'éliminer cette casse-couille de première.